I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant, et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans Le cœur sur la table.
Salut, c'est Thomas Rozek. Il ne vous aura pas échappé que, outre évidemment la réforme des retraites, l'actualité politique de cette année qui débute sera en grande partie rythmée par une échéance électorale, celle des municipales, les 15 et 22 mars prochains. Et comme tous les 6 ans, puisque c'est la fréquence avec laquelle on élit les maires chez nous, ce scrutin, dans son traitement médiatique au niveau national, il sera en grande partie focalisé sur Paris. Paris qui est déjà un véritable champ de bataille où s'écharpent les macronistes, les écologistes, les insoumis, où on s'attend d'un jour à l'autre à l'entrée en campagne de la maire socialiste sortante Anne Hidalgo, et où aussi on observe la droite traditionnelle se débattre avec ses vieilles habitudes de division interne. Chez les Républicains, c'est en effet Rachida Dati, l'ex-star de l'ère Sarkozy, qui mène le jeu, bousculée par des barons qui ne l'aiment pas beaucoup. L'ancienne ministre est une figure bien identifiée du paysage politique français. Mais est-ce qu'on la connaît vraiment si bien? On a eu envie de se poser notre question rituelle. Qui êtes-vous, Rachida Dati? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
Elle est en pleine forme, elle est rayonnante. Je vais te dire, Rachida, on est avec toi. On aime ton courage, on aime ton sourire, on aime ta détermination, et le parti aime Rachida.
Sur les débuts de Rachida Dati, il y a bien des choses publiques et privées à raconter. Et si on ne peut pas prétendre à l'exhaustivité, essayons de garder l'essentiel. Déjà qu'elle est née en 1965 en Saône-et-Loire, dans une grande famille, 11 enfants, d'un père marocain et d'une mère algérienne. Un milieu modeste, mais une scolarité chez les sœurs, dans un collège catholique. Ça lui sera utile plus tard en tant que maire du très pieux 7e arrondissement de Paris, on y reviendra. Un temps tentée par la médecine, elle fait finalement des études de sciences économiques. Et dès la fin des années 80, elle montre sa détermination et ses ambitions. Invitée on ne sait trop comment dans une réception à l'ambassade d'Algérie, elle y croise un ministre, Albin Chalandon, le garde des Sceaux. Il se prend de sympathie pour elle et l'aide à entrer chez Elf, tout en l'encourageant à poursuivre ses études. Jean-Luc Lagardère, qu'elle rencontre et impressionne aussi, l'a fait entrer ensuite chez Matra. Et là aussi, il l'incite à poursuivre son cursus. Ce sera du droit. Elle fait au début des années 90 ses premiers pas dans les cabinets ministériels de droite, à la direction juridique du ministère de l'Éducation nationale, qui est alors dirigée par François Bayrou. Puis, passage par l'École nationale de la magistrature, dont elle ressort comme juge au tribunal de Péronne dans la Somme. Mais c'est la politique qui, à l'évidence, l'attire. En 2002, elle parvient à croiser la route de celui qui va changer sa vie, Nicolas Sarkozy. Il est alors ministre de l'Intérieur. Entre les deux, le courant passe très bien. La voilà conseillère, un poste qu'elle conservera lorsque Sarkozy quittera la place Beauvau pour Bercy en tant que ministre de l'Économie en 2004. Leurs liens ne font que se renforcer, notamment grâce à l'épouse de l'époque de Nicolas Sarkozy, Cécilia Sarkozy. C'est donc sans trop de surprise qu'on retrouve, une fois Sarkozy lancé dans la course à l'Élysée, Rachida Dati au cœur de sa campagne présidentielle, au poste très convoité de porte-parole.
Et en direct du Zénith avec nous, la porte-parole de Nicolas Sarkozy, Rachida Dati, bonjour.
Bonjour.
On vient de le voir, c'était la radio pour les jeunes hier, aujourd'hui le meeting pour les jeunes, c'est la journée jeune de Nicolas Sarkozy. Est-ce que cela veut dire que votre candidat a un déficit d'image auprès de cette population à combler?
Non, ce meeting est un meeting normal dans une campagne présidentielle. Il a un grand message à délivrer aux jeunes qui ont été longtemps ou infantilisés ou assistés. Aujourd'hui, il faut responsabiliser cette jeunesse qui attend beaucoup qu'on lui dise la vérité et qu'on lui parle avec beaucoup d'amour.
C'est à cette occasion qu'elle explose médiatiquement et devient l'un des visages clés de cette nouvelle génération post-Chirac qui fait tout pour la mettre en avant. Elle est jeune, fille d'immigrés, d'origine populaire, farouchement de droite, mais aussi de fait relativement inexpérimentée en politique. Se pose donc la question de son devenir, une fois la victoire de Sarkozy actée. Un poste au gouvernement? Oui, mais où? À la surprise générale, ce sera le ministère de la Justice. Tout sauf une planque, surtout avec un programme aussi axé sécurité que celui du candidat Sarkozy. Cette arrivée inattendue de Dati à ses fonctions cruciales, j'en ai parlé avec un de ses anciens collaborateurs, Guillaume Didier. Il a été conseiller, porte-parole du ministère de la Justice. Il a œuvré auprès de trois gardes des Sceaux, Pascal Clément, Michel Alliomari et donc, à son grand étonnement, de Rachida Dati.
Je rencontre Rachida Dati la première fois quelques heures après la passation de pouvoir avec son prédécesseur, Pascal Clément, dont j'étais le conseiller presse et communication. Vous savez, quand un ministre arrive, il arrive avec un cabinet tout nouveau, tout constitué, et le ministre qui est sur le départ part avec ses conseillers. On s'attendait évidemment à voir Rachida Dati arriver avec des conseillers déjà choisis, notamment en lien avec l'Élysée. Et à notre grande surprise, Rachida Dati est arrivée quasiment seule au ministère de la Justice. Quelques heures après la passation de pouvoir, j'ai un appel du secrétariat particulier de la nouvelle ministre qui me dit « Guillaume, il faudrait revenir, la ministre voudrait vous rencontrer ». Donc je l'ai rencontrée dans son bureau, elle m'a dit « Écoutez, on m'a dit que vous faisiez à peu près correctement la communication, j'ai personne, est-ce que vous voulez bien continuer avec moi ?» J'étais abasourdi, parce qu'il était peu probable d'être le conseiller presse et communication du premier garde des Sceaux, Nicolas Sarkozy. C'était une époque complètement nouvelle, complètement incroyable. Et j'ai dit oui immédiatement.
Qu'est-ce que vous saviez d'elle avant qu'elle arrive? Vous la connaissiez déjà?
Alors, je ne la connaissais pas. J'en avais entendu vaguement parler dans la presse parce qu'elle était conseillère de Nicolas Sarkozy à la ministre de l'Intérieur et elle avait été son porte-parole pendant la campagne. Et je me rappelle d'une de vos consoeurs journalistes au Canard Enchaîné qui m'appelle quelques jours avant la composition du gouvernement et qui me dit « On parle de Rachida Dati comme garde des Sceaux ». Et j'ai explosé de rire en disant « Mais vraiment n'importe quoi, les journalistes ne savent plus quoi inventer, je n'y crois pas une seule seconde ».
Pourquoi vous n'y croyez pas ?
Personne n'avait anticipé. Tout le monde pensait, il y avait quelques ministrables de la justice déjà pressentis, il y en avait qui avaient déjà constitué leur cabinet, je pense notamment à Patrick de Vedjean, je pense à l'un et d'autres. Et honnêtement, personne ne pouvait anticiper qu'une conseillère de l'ombre, jeune magistrate, qui était dans l'équipe de campagne de Nicolas Sarkozy, puisse être nommée garde des Sceaux, c'est-à-dire un des postes les plus prestigieux, mais surtout les plus sensibles d'un gouvernement.
C'est quoi les défis qui l'attendent quand elle arrive justement à ce poste extrêmement sensible dans un gouvernement ?
Alors, ses principaux défis, et elle y était très attachée, c'était de mettre en œuvre les engagements du candidat Nicolas Sarkozy, qui venait d'être élu président de la République. Et elle a pris sa tâche vraiment très à cœur, tellement à cœur qu'elle a bousculé complètement le ministère de la Justice. Personne ne s'attendait à ce que les promesses de campagne du candidat Nicolas Sarkozy soient mises en œuvre quasiment intégralement et surtout aussi rapidement. Donc, ses principales tâches, c'était de mettre en œuvre la réforme de la carte judiciaire, les peines planchées, bref, des sujets qui sont extrêmement sensibles et qui ont été maintes fois annoncés et qui n'avaient jamais été mis en avant.
Vous jouez la gagne pour les municipales en mars à Paris, Rachida Dati,
d'après vous?
J'imagine que vous allez me dire oui.
Voilà.
Tous les candidats le disent en même
oui,
temps.
Oui, ben, en tous les cas, moi j'y vais pour gagner, je suis déterminée, le combat ne me fait pas peur et vous le savez, la difficulté me fait encore moins peur et vous le savez aussi, et puis les obstacles, je les surmonterai comme j'en ai surmonté tant d'autres.
En tant que patronne, comment elle était?
Elle était très exigeante, dure, il faut le dire, dure. Elle ne s'arrêtait jamais, elle attendait une disponibilité, ce qui est le cas toujours en cabinet ministériel. On attend, les ministres attendent de leurs collaborateurs de la disponibilité, de la loyauté, de la présence, de la réactivité. Là, c'était au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Donc oui, c'est quelqu'un qui... Je pense qu'elle débutait sa carrière politique. C'était une conseillère de l'ombre, elle devient ministre de premier plan, tout de suite avec une immense popularité, une très grosse pression et la volonté de mettre en œuvre le programme présidentiel. Donc effectivement, très dur. Il fallait que ça suive. Si on ne suivait pas, on ne pouvait pas rester à son cabinet.
Vous l'avez dit, son passage en tant que ministre de la Justice a notamment été marqué par, on va dire, une forme de défiance, ou en tout cas une forme de rapport conflictuel à la magistrature notamment. Comment vous le viviez, vous, de l'intérieur du cabinet ?
Alors, les relations entre la magistrature ou les milieux judiciaires en général, j'intègre là-dedans les avocats, les greffiers, les notaires, etc., et le garde des Sceaux sont souvent conflictuels. Ce qui était particulier là, c'était que, comme elle était très exigeante, elle voulait vraiment que les choses aillent très vite. Et c'est vrai qu'elle a bousculé le milieu judiciaire qui est un petit peu calme, un peu conservateur. Ça a tendu très vite les choses. Ce n'était pas forcément évident à vivre parce que Je pense qu'il y a eu des erreurs de commises hein, dans les tout débuts. Il y a eu un magistrat du parquet convoqué au ministère de la Justice parce que sa réquisition avait été critique sur les peines planchers, etc. Bon, ça, je pense que c'était objectivement des erreurs, évidemment. Et du coup, ça a beaucoup tendu les choses. Après, il y a eu des avancées quand même concrètes qui ont été accomplies. Et en tout cas, elle aura marqué le ministère de la Justice, parfois pour des tensions, mais aussi parfois pour des avancées. Je pense notamment à la sécurisation des juridictions. Pas oublier que c'est elle et elle seule qui a réussi à faire que toutes les juridictions soient sécurisées en moins de 6 mois. Avant son arrivée, on pouvait rentrer dans un tribunal comme on rentre dans un hall d'immeuble. On oublie que c'est elle qui a installé les portiques de sécurité, les vigiles à l'entrée, etc. Donc ce sont des avancées concrètes qui ont quand même amélioré la vie des juridictions.
Sa médiatisation très forte, comment est-ce que vous la gériez, vous qui étiez en charge notamment des relations avec la presse ?
Ah, c'était absolument incroyable. C'est-à-dire que vous voyez, 10 ans ou 12 ans après, je n'en reviens toujours pas. Je me rappelle très très bien de la première sortie, le lendemain de sa nomination, on a fait une sortie dans les rues de Paris. D'habitude, même au bout de 2 ans, l'opinion publique ne connaît pas le nom du garde des Sceaux, n'arrive pas à le reconnaître dans la presse. Là, elle était tout de suite identifiée par son prénom, son nom et sa fonction, ce qui était absolument incroyable, et une popularité folle. C'est-à-dire que j'ai le souvenir de déplacements où on arrivait le matin en TGV à la gare de Lille à 9h, et à 18h en revenant, il y avait encore des gens qui l'attendaient pour la saluer, si vous voulez. Donc des gens attendaient des journées entières pour pouvoir saluer Rachida Dati, faire des selfies avec elle. C'était absolument incroyable, totalement irrationnel. Et surtout instantané. C'est très très étonnant.
Et c'était difficile à gérer du coup, à encadrer ?
Oui, c'est très difficile à gérer parce que le garde des Sceaux, il a avant tout des sujets sérieux de fond. Et c'est vrai que cette immense popularité a pu nuire un peu à la communication sur le fond. Tout le monde s'en souvient, il y a eu beaucoup de sujets sur sa personnalité, sa famille, ses tenues vestimentaires, etc. C'était objectivement compliqué de faire une communication sur le sérieux de la réforme de la carte judiciaire ou des peines planchers, quoi qu'on puisse penser de ces deux réformes et la manière dont elles ont été conduites, lorsque l'on vous parle de la tenue vestimentaire du ministre, quoi. C'était un peu compliqué, oui, effectivement.
Est-ce que ça explique en partie qu'on ait retenu, ou en tout cas qu'on ait la sensation d'avoir retenu plus sa personnalité, son style de manière très globale, que sa politique en tant que ministre ?
Bah, je pense qu'on retient les deux, en fait. Hein. 10 ans, 12 ans après, beaucoup avaient prédit sa disparition de la vie politique. Alors là, on peut constater qu'elle est toujours bien présente. Et puis, des réformes quand même importantes. La réforme de la carte judiciaire était importante, l'augmentation des moyens du ministère de la Justice, conformément à ses prédécesseurs, mais ses successeurs n'ont pas toujours eu le même succès, je crois qu'elle a marqué quand même profondément. Après, certaines réformes ne sont pas passées. La rétention de sûreté, les peines planchées ont été mal acceptées, notamment par les avocats.
Sur le côté people, on passera sur les histoires bien connues de sa maternité, de sa fille, etc. pour se concentrer sur sa vie politique. Députée européenne à partir de 2009 et de sa sortie du gouvernement, Dati est surtout depuis 12 ans impliquée dans la vie politique parisienne, en tant pour l'instant que maire du 7e arrondissement depuis 2008. J'ai discuté de cette arrivée dans le très complexe et épineux système politique de la capitale avec quelqu'un qui suit ça de près, surtout en ce moment, mon confrère Alexandre Sulzer, journaliste au Parisien.
Rachida Dati, elle émerge au moment de la campagne de Nicolas Sarkozy. C'est une personnalité que Nicolas Sarkozy met en avant dans la campagne, dans ses meetings, et qui a du peps, qui passe bien auprès des médias. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est élu, donc il lui faut un fief. Il faut qu'elle ait un mandat, elle veut le sens en politique, il lui faut un mandat électif, un territoire. Mais elle ne s'était jamais présentée jusqu'alors. Nicolas Sarkozy, lui, confie le 7e arrondissement, enfin lui donne cet arrondissement, qui est un arrondissement en or en fait, parce qu'il est totalement imperdable, évidemment, c'est un arrondissement totalement acquis à la droite, et Nicolas Sarkozy lui fait ce cadeau-là, sachant que c'est imperdable.
Quel type de maire et de conseillère de Paris elle est ?
Alors, c'est une maire qui, au début, certains pensaient que la greffe ne prendrait pas, dans le 7e arrondissement, un arrondissement très bourgeois, très conservateur. Elle n'a pas vraiment le profil par ses origines sociales, culturelles, mais finalement, elle arrive très bien. Hein. Je crois que le mix se fait finalement assez bien. Elle fait du terrain, elle va à la messe le dimanche, elle arrive quand même à conquérir cet électorat-là. Sa proximité avec Nicolas Sarkozy aide, évidemment, et ça lui assure finalement sa réélection. Elle a été réélue sans trop de difficultés. En revanche, au Conseil de Paris, on ne peut pas dire que ce soit forcément une conseillère de Paris extrêmement présente. En tout cas, sa réputation au sein même de sa famille politique, c'est d'avoir une relation des fois un peu distendue avec les dossiers municipaux, dès lors qu'il ne s'agit pas de son arrondissement. C'est vraiment quelqu'un qui est plus présente sur sa mairie qu'au Conseil de Paris, ce qui fait que quand elle a annoncé d'ailleurs qu'elle voulait conquérir la mairie de Paris, la mairie centrale, l'hôtel de ville, ça a pu un peu surprendre au début parce que jusqu'alors, elle n'avait pas fait montre de forcément beaucoup d'implication dans les dossiers municipaux.
Il y a un précédent pour Rachida Dati de tentative d'être la tête de liste pour Paris, pour l'UMP à l'époque. C'était en 2014 et ça ne s'est pas forcément très bien passé pour elle.
Non, en 2014, effectivement, elle avait essayé. Ça avait finalement tourné court assez rapidement. Elle n'avait même pas participé finalement à la primaire interne. Il y a eu une primaire interne à l'époque avec Jean-François Le Garret, le maire sortant du premier arrondissement, Pierre-Yves Bournazel, aujourd'hui au Parti Agir, qui était élu du 18e, et puis Nathalie Kosciusko-Morizet. Et elle n'avait pas participé à la course. Elle ne voulait pas avoir de rentrer dans cette logique-là de primaire interne. Mais effectivement, elle avait déjà indiqué qu'elle aurait bien aimé y aller, sachant qu'en plus, sa rivalité avec NKM, on sait que leur relation était compliquée. Donc, elle ne souhaitait pas nécessairement qu'NKM puisse venir se parachuter à Paris, alors que jusqu'alors, elle était élue dans l'Essonne, députée de l'Essonne.
Là, son adversaire principal pour cette municipale qui s'annonce, est-ce que c'est réellement Anne Hidalgo ? Parce qu'on l'est dit, par ailleurs, extrêmement proche.
Alors, effectivement, ce qui est marrant, et ce qui frappe un petit peu dans ce début de campagne, c'est que Rachida Dati cible beaucoup plus Benjamin Griveaux, en réalité, que Anne Hidalgo. Et même quand elle parle des fois du bilan de la mairie sortante, quand même qu'elle gratine forcément un petit peu, puisque elle est opposante, mais elle ne nomme presque jamais, nommément Anne Hidalgo. Leurs relations sont notoirement bonnes. D'ailleurs, elle en parle assez ouvertement, assez publiquement. Ça renvoie également un petit peu à l'histoire, effectivement, de l'élection municipale de 2014, où Rachida Dati et Anne Hidalgo avaient peut-être un intérêt commun à ne pas voir émerger, avoir une victoire éclatante de Nathalie Kosciusko-Morizet au municipal. Donc, effectivement, dans cette campagne, dans ses prises de position, elle attaque très, très durement Benjamin Griveaux. Mais on peut même presque dire que médiatiquement, les personnes qu'elle attaque le plus, en tout cas dans ce qui fait l'actualité au cours des derniers mois, ce sont même les barons de la droite parisienne. Dans ses discours, dans ses prises de parole en meeting, enfin en réunion publique, puisqu'elle n'a pas encore fait de grand meeting, elle attaque Benjamin Griveaux, mais dans ce qu'elle a à gérer aujourd'hui, c'est-à-dire les investitures des uns et des autres dans les arrondissements, finalement, ses principaux adversaires, ce sont les élus de la droite, de sa propre famille politique.
Est-ce qu'on peut résumer un peu quel est le problème dans cette histoire d'investiture ?
Elle entend porter les couleurs des Républicains.
Bonsoir Mouloud, bonsoir à tous. On parle de Rachida Dati, qui a été investie candidate officielle des Républicains pour les municipales à Paris. Elle était l'invitée ce matin de Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV. Alors il n'a pas manqué de lui poser quelques questions délicates, dont celle-ci.
Vous êtes foncièrement anti-Emmanuel Macron ?
Non, mais je faisais quoi cette question ?
Non, je vous pose cette question parce que est-ce que vous pourriez à un moment donné ou un autre passer un accord avec Benjamin Griveaux ou avec Cédric Villani ? Ce serait possible ou pas ?
Alors, c'est une question compliquée pour Rachida Dati parce que si elle répond « oui, je pourrais passer une alliance avec Benjamin Griveaux », elle risque de s'aliéner tous ses électeurs qui pourraient être anti-macronistes. Si elle répond « non, je n'envisage pas d'alliance », elle risque de mettre en péril un accord éventuel au second tour. Donc, elle ne peut répondre ni oui ni non. Dans ce cas-là, en politique, qu'est-ce qu'on fait ? On fait de la langue de bois.
C'est son principal argument dans cette campagne, c'est que la droite ne disparaisse pas de Paris, alors que électoralement, au cours des dernières élections, la droite a presque disparu à Paris, à la présidentielle et aux législatives, et ça a été encore confirmé aux européennes. Il y a eu vraiment une vague macroniste dans la capitale. C'est vrai au niveau national, on sait que la droite est menacée par En Marche, que certains électeurs de droite sont largement séduits par Emmanuel Macron, et c'est encore plus vrai à Paris. Et les maires sortants, eux, évidemment, ça leur a pas échappé. Ils ont eu très peur pour leur réélection. Certains, d'ailleurs, n'ont pas réussi à gagner aux législatives. Ils sont traumatisés par ça. Donc, eux, leur souhait, c'est de ne pas s'afficher trop, porter l'étendard des Républicains trop fort, et au contraire, montrer qu'ils peuvent composer avec En Marche, ou en tout cas avec une alliance large avec le centre, pour battre Anne Hidalgo. Donc, on voit, eux, leur intérêt, c'est leur, et eux pensent à leur réélection. Là où Rachida Dati, elle, sa préoccupation, c'est de porter les couleurs du parti, c'est-à-dire pour ça qu'elle a été choisie, désignée. Et donc, elle a un problème, parce que surtout avec des maires d'arrondissement sortants, donc ça concerne quasi essentiellement l'Ouest parisien, puisque beaucoup moins d'élus de droite dans l'Est parisien, des élus qui ne souhaitent pas publiquement ou qui ne souhaitaient pas publiquement faire campagne pour elle. Donc effectivement, c'est compliqué pour elle d'investir des têtes de liste dans des arrondissements avec des têtes de liste qui refusent de faire campagne pour elle. Donc ça, c'est un problème. Le problème pour le parti, c'est qu'il leur est compliqué également d'investir d'autres personnes que les maires sortants, parce qu'ils sont quand même solidement implantés dans des arrondissements qui sont des gros pourvoyeurs de conseillers de Paris, nécessaires pour l'élection de l'hôtel de ville. Donc là, Christian Jacob, le président des Républicains, a un vrai problème. D'un côté, essayer de pousser les élus à soutenir Rachida Dati, ce qui est très compliqué parce que eux ont peur que ça leur coûte des points dans l'électorat. Et de l'autre côté, le fait que, évidemment, ils ne peuvent pas se permettre non plus d'investir des gens contre leur propre maire. Voilà, donc la situation est assez ubuesque. Mais ça, c'est un peu une spécialité de la droite parisienne.
Est-ce qu'on peut dire que Rachida Dati, c'est une des survivantes de la génération Sarkozy ?
Effectivement, Rachida Dati, elle rappelle un peu cet âge doré pour la droite, ce qui peut d'ailleurs parler à une partie de l'électorat, dans les personnalités clairement identifiées du grand public. Alors, c'est vrai que c'est un des derniers dinosaures sarkozistes qui soit encore vraiment en place, des personnalités qui étaient proches de Nicolas Sarkozy, comme Claude Guéant, par exemple, ont disparu du jeu politique. Quelqu'un comme Frédéric Lefebvre a tourné le dos à sa propre famille politique, est parti beaucoup plus vers le centre. Et c'est cet étendard aussi que porte Rachida Dati dans cette campagne, cette droite décomplexée qui ne veut pas forcément trahir, qui ne veut pas forcément s'allier avec le macronisme. C'est aussi cette carte-là, cette nostalgie-là qu'elle porte.
Difficulté supplémentaire enfin dans cette campagne parisienne de Rachida Dati, le fait qu'elle fasse l'objet depuis la fin de l'année 2019 d'une enquête menée par 3 juges d'instruction pour suspicion d'abus de biens sociaux et de corruption active et passive à cause de liens passés avec Renault Nissan et son désormais archimédiatique ex-patron Carlos Ghosn. Et puisqu'on parle ici des municipales à Paris, je me permets de vous signaler que nos camarades de Code Source, le podcast d'actu du Parisien, ont consacré plusieurs épisodes tout à fait passionnants aux enjeux du scrutin cette année. Merci à Guillaume Didier et Alexandre Sulzer pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter pour nous parler, et à lundi pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée, et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.